Vous écoutez Mathieu Béliard, votre grand journal du soir sur Europe 1.
Peut-on organiser le travail des fonctionnaires comme celui des salariés du privé ? Et est-ce souhaitable ? C'est aussi la question autour de la table avec nous ce soir. Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Bonsoir Christian Saint-Etienne.
Bonsoir.
François Eckel est avec nous, également fondateur de Fipeco, un site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des Comptes. Bonsoir François Eckel.
Bonsoir.
Baptiste Talbot avec nous, aussi secrétaire général de la Fédération CGT des Services Publics. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus en studio avec nous également, Benjamin Muller.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Benjamin, comme chaque jour avec vous, on voit comment la télé et la radio couvrent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, vous avez choisi quoi ?
J'ai choisi l'un des sujets qui a fait la une toute la journée, la rumeur.
Elle court, la rumeur, et les autorités ont bien du mal à la court-circuiter. Une incroyable histoire.
Oui, incroyable, Nico, ça a raison, c'est le moins que l'on puisse dire. Julien Bugier, au 20h de France 2.
Quand une rumeur donne lieu à des violences et des règlements de compte, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière en Seine-Saint-Denis. Plusieurs groupes de jeunes s'en sont pris à des membres de la communauté du voyage.
Alors, cette rumeur, quelle est-elle ? Qu'est-ce qui a poussé ces habitants à vouloir organiser un lynchage ? BFM TV a posé la question à un jeune du quartier.
Il y a eu des rumeurs sur les Roms. Ils allaient dans des quartiers, ils allaient prendre des enfants, ils les récupéraient, après ils les emmenaient et après ils les revendaient pour les organes, je sais pas quoi.
Voilà, donc dans la foulée, une expédition punitive est organisée, totalement justifiée selon cet autre habitant.
Il y a une rumeur qui a tourné en disant qu'il y a des Roumains qui ont essayé de kidnapper un jeune, une jeune fille. Donc les gens ils sont révoltés, c'est normal. Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont attaqué, les ont dégagés, et voilà.
Alors, des rumeurs qui débouchent sur ce type de violence, ce n'est évidemment pas une première anecdote entendue sur RMC.
Juste, le même genre de rumeur a eu lieu en Inde. En Inde, il y a eu 30 morts avec des opérations punitives. Là, d'après les vidéos qu'on a pu voir, on n'est quand même pas passé loin du lynchage.
Voilà donc pour les faits. Alors maintenant, la question que se posent les médias aujourd'hui, comme ici Pascal Pro sur CNews, la question, c'est celle-ci.
Quelle est la genèse de cette rumeur, pour tout dire, qui nous fait peur ?
Oui, qui nous fait peur. La France a peur et la genèse, elle vient des réseaux sociaux. Autre ado du quartier, toujours sur BFM.
Ça tourne partout, partout. Facebook, Insta, Snap, partout, partout, ça tourne.
Mais toi, vraiment, t'y crois ?
Pourquoi pas ?
Bah oui, pourquoi pas. Facebook, Insta, Snap, on croirait un sketch, mais non. Commentaire sur RMC.
Le problème, c'est pas le gang des Roumains, le gang des Bulgares, c'est le gang des blaireaux qui est sur les réseaux sociaux, c'est tout. Il n'y a pas autre chose.
Voilà, c'est pas bête, mais sur LCI, un journaliste spécialiste de la rumeur détaille la complexité de ce genre d'affaires.
Il faut 2 heures pour accréditer une info, d'accord ? Il faut 14 heures pour démonter une rumeur.
Alors là, ça fait bien plus de 14 heures que l'affaire a été démentie, démontée, mais en se rendant à Clichy-sous-Bois ce matin, Justin Morin pour Europe 1 a rencontré des parents pas encore sûrs et certains que la rumeur était bidon.
On a entendu qu'il y a un bébé qui a failli se faire kidnapper. Voilà, on a un peu peur et voilà, on sait pas.
On sait pas, incroyable affaire. Donc la rumeur et le lynchage à l'heure des réseaux sociaux. Conclusion à propos de tout cela du sage Pascal Pro.
Écoutez, c'est le monde d'aujourd'hui, il y a rien à... Je sais pas ce qu'on peut faire.
Ben oui, il y a rien à faire, c'est le monde d'aujourd'hui, Mathieu.
Mais je suis d'accord et pas d'accord, c'est pas que le monde d'aujourd'hui, la rumeur et ce genre de lynchage. Je le disais tout à l'heure, au Moyen-Âge, ça existait aussi. La différence, c'est la rapidité avec laquelle ces réseaux sociaux propagent ce genre de fausses infos et la difficulté aussi de démentir. C'était bien dit, hein, je ne sais plus quel journaliste, 2 heures pour accréditer l'information, enfin la rumeur, et 14 heures pour la démentir. Et encore aujourd'hui, hein, je suis sûr que ce qu'a fait Justin Morin ce matin, qui était très bien d'ailleurs, allez voir encore aujourd'hui ses parents, peut-être que certains y croient encore. Merci Benjamin Muller. 19h27, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Notre débat autour du projet de loi de réforme de la fonction publique présenté ce matin au Conseil des ministres. On revient dans quelques secondes avec mes invités, il est 19h27.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1 jusqu'à 20h, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics, François Eckel, fondateur de Fipeco, site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes, et Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers.
Alors on pourrait dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de différents changements pour la fonction publique présentés dans ce projet de loi ce matin en Conseil des ministres. On pourrait parler du contrat de mission, on pourrait parler de la rémunération au mérite. L'idée générale, et je vais commencer par Baptiste Talbot de la CGT, est-ce qu'on est en train d'essayer d'aligner les fonctionnaires sur le privé ?
C'est visiblement la philosophie
Juste bien dans le micro.
Ouais. C'est visiblement la philosophie du projet du gouvernement, qui l'assume à peu près. Donc tout ça est argumenté sur le thème de l'agilité, de la souplesse, enfin voilà, tout ce qu'on entend très régulièrement et hélas depuis déjà pas mal de temps. Nous, la question qu'on pose, c'est si on nous dit qu'il faut aligner la fonction publique sur le secteur privé, c'est quelles sont du coup les finalités de la fonction publique. Et nous, nous maintenons l'idée que la fonction publique, elle est là pour rendre un service public, elle est là pour l'intérêt général. La logique du secteur privé, c'est une logique de rentabilité et de profit, bon, qui peut se comprendre vu comment les choses sont organisées à ce jour dans notre pays. Mais voilà, nous alertons vraiment à la fois les personnels et les usagers de la fonction publique sur le fait que derrière cette réforme qui vise effectivement, d'une certaine manière, à aligner les règles de gestion sur le secteur privé, c'est bien la question de la pérennité et de la finalité du service public dans ce pays aujourd'hui qui est posée à travers ce projet de loi du gouvernement.
On parle là d'économie et puis finalement de simple gestion des ressources humaines. Est-ce que c'est souhaitable à vos yeux, François Eckel, d'aligner certaines dispositions de la fonction publique, des services publics, d'organiser le travail des fonctionnaires comme celui des salariés du privé ?
Vous savez, quand on a commencé en France à réfléchir à l'idée d'un statut de la fonction publique, c'était dans l'entre-deux-guerres, les partis de gauche et les syndicats étaient contre. Pourquoi ? Bah parce que le statut, ça met le fonctionnaire, l'agent public, dans une position de dépendance par rapport à l'État et par rapport à son autorité hiérarchique. Et à l'époque, on considérait que finalement, le contrat, c'était plus protecteur. Parce que le statut, il peut être modifié unilatéralement. D'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer. Alors que le contrat, il ne peut être modifié que si les deux parties sont d'accord. Bon, aujourd'hui, dans l'ensemble du monde, vous avez des pays comme la Suède, où les services publics ne sont pas de plus mauvaise qualité que la France et où les fonctionnaires ne sont pas moins protégés qu'en France n'est pas moins valorisé qu'en France. En Suède, il n'y a quasiment plus de fonctionnaires. Donc je ne pense pas qu'il faille faire un tabou, un totem du statut. Moi, je pense qu'il faut garder le statut. Rien contre le statut. Je n'ai pas envie de... Enfin, je pense qu'il est inutile d'agiter quasiment le chiffon rouge que serait une suppression du statut. Mais il faut pouvoir le modifier de temps en temps. Il faut pouvoir l'alléger. Parce que, prenons un exemple. Un des principes du statut, c'est que les fonctionnaires sont recrutés sur concours. Le problème, c'est que vous avez un concours pour chaque corps de fonctionnaires. Et dans la fonction publique d'État, vous avez plus de 300 corps. Donc ça veut dire que chaque année, si vous suivez ce principe, vous allez être obligé de préparer un concours, d'organiser un concours pour recruter une dizaine de personnes. C'est absurde. Ça coûte très cher à organiser. Donc ça manque totalement en effet de flexibilité. Donc il faut adapter le statut. Donc on peut vivre avec un statut, comme on pourrait très bien vivre sans statut avec des conventions collectives tout aussi protectrices. Donc c'est pas la peine d'en faire une guerre de religion, mais je pense qu'il faut adapter les choses.
Christian Saint-Etienne, adapter le statut jusqu'à quel point, à quel moment est-ce que l'adaptation du statut correspond à sa disparition finalement, à sa dilution par rapport au statut des salariés du privé?
Oui, je pense il faut être très prudent là-dessus. Ce qui est pour moi le mot-clé dans les réflexions sur l'action publique, c'est l'efficacité et le coût. La fonction publique n'est pas toujours plus chère. Elle l'est parfois. Ça dépend complètement des missions. Donc si vous prenez les missions régaliennes, qui sont les missions clés, fondamentales, les missions originelles de l'État, donc... armée pour la défense nationale, police et justice, ce sont des fonctions où on ne peut pas imaginer en tant que citoyen que les décisions qui seront prises par les juges ou les policiers le seront parce qu'ils auront un intéressement sur la décision prise. On le voit bien quand Paris a basculé les recettes de parking dans les rues sur le privé. Il y a eu des comportements qui ont été dénoncés partout, où on avait une sorte d'acharnement sur les citoyens qui se parquaient dans la rue. Donc, il y a des fonctions où il est absolument essentiel que l'État garde la main. La question à ce moment-là, c'est est-ce que c'est fait avec un coût contrôlé et une efficacité mesurée? Donc, la Cour des comptes vient de sortir un travail sur la fonction publique d'État. De mémoire, 1 100 000 fonctionnaires d'État en dehors des fonctions particulières, justement de police ou d'éducation, qui ont montré que sur ce 1 100 000, il y avait plus de 300 000 fonctionnaires qui n'obéissaient pas à l'horaire officiel. Bon, donc là, ça doit être corrigé.
C'était l'Inspection Générale des Finances.
Voilà. Donc, mais sous réserve que ce soit correctement managé et qu'on ait une véritable organisation professionnelle, il ne faut pas en faire une religion. Je termine par un exemple. Qui va être flic en Seine-Saint-Denis ou qui va être flic le samedi sur les Champs-Élysées pour 1 500, 1 800 euros ? Donc très souvent, on a pu recruter ces personnels parce que ils ont un statut, ils ont un projet de carrière, ils ont une vision sur un cycle de vie. Si demain on passait ce genre de service en fonction privée, peut-être qu'il faudrait les payer 3000 euros. Donc il ne faut pas considérer systématiquement que la fonction publique est plus chère. Ça dépend des risques et des services rendus. Donc pour moi, l'élément central d'analyse, c'est l'efficacité et le coût.
Recentrer finalement sur quelques missions choisies, mais pas sur l'ensemble de ce que sont les services publics aujourd'hui. Baptiste Talbot, de ce que vous entendez, disons les choses clairement pour vous. Ce projet de loi, c'est une remise en cause profonde du statut de fonctionnaire ?
Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, je veux souligner à quel point il y a un regard négatif de l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique, y compris les plus...
Réformistes, on dit ?
Les plus en recherche de compromis éventuels, mais
le
voilà.
Le mot ordinaire, c'est réformiste, on dit ça.
On en pense ce que l'on veut, mais voilà, il y a différentes options dans le syndicalisme français. Bon, il se trouve que l'ensemble des syndicats représentatifs de la fonction publique sont opposés à ce projet de loi, donc ça n'est pas un hasard. Ça veut dire quand même qu'il y a un véritable problème d'abord de méthode. On a eu des heures et des heures de discussions, mais jamais de négociations, puisque maintenant ce gouvernement refuse de négocier, mais ça vaut pour l'ensemble des secteurs et pas que pour la fonction publique. Et par ailleurs, sur le fond du projet, le gouvernement a bien imposé ses vues, c'est-à-dire une remise en cause effectivement profonde
du
statut des fonctionnaires. Statut des fonctionnaires dont je tiens à souligner ici qu'il est d'abord et avant tout une garantie pour l'usager, parce que nous, ce que nous disons et ce que nous rappelons, c'est que le statut, il permet en particulier, par exemple, que les agents de la fonction publique, quand on leur demande d'exécuter un ordre illégal, ce qui peut quand même arriver et qui risque d'arriver beaucoup plus souvent, eh bien le fonctionnaire, il est en situation de refuser d'exécuter cet ordre illégal parce que son emploi n'est pas menacé, et que quand même quand on est contractuel et que quand potentiellement on peut être licencié, eh bien c'est beaucoup plus difficile de résister à des ordres illégaux ou à des pressions politiques et partisanes. Et il y a aussi dans tout ça un enjeu de risque de recrutement clientéliste, par exemple. Moi, je suis issu du monde des collectivités territoriales. Je vais à l'extrême pour bien me faire comprendre. J'ai pas envie que Robert Ménard, maire de Béziers, par exemple, eh bien demain, il puisse recruter qui veut sur contrat, parce que forcément, ça va poser des problèmes de neutralité du service public.
19h37. Europe 1. On marque une pause et le débat continue avec mes invités. N'hésitez pas à prendre la parole au 39-21 ce soir, 19h38. Maintenant, à tout de suite.
Sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Mathieu Béliard, vos invités Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, conservatoire national des arts et métiers, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics, et François Eckal, fondateur de FIPECO, site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes.
Je voudrais aussi rappeler, puisqu'on parle des fonctionnaires ce soir, l'objectif du gouvernement, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat. Parti comme c'est, on a du mal à imaginer 120 000 postes, mais c'est quand même l'objectif qui a été rappelé. François Eckal, si on garde en tête l'idée d'avoir une continuité de la mission de service public tout en supprimant des postes de fonctionnaires, est-ce que ce projet de loi, finalement, il n'est pas là pour continuer à recruter, mais en s'assurant de ne pas créer de nouveaux postes de fonctionnaires ?
Je pense qu'il y a des dispositions dans ce projet qui visent, je dirais, à faciliter en effet une baisse des effectifs de la fonction publique, qui à mon avis n'a rien d'excessif. Hein. Parce que 120 000 postes sur 5 millions, plus de 5 millions d'agents publics, ça veut dire que chaque année, ça représente à peu près 0,5% de la fonction publique. Faire des gains de productivité de 0,5% par an maintenant, c'est-à-dire maintenir la qualité du service avec 0,5% d'effectifs, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans les services, on fait des gains de productivité avec les nouvelles technologies de 0,5% par an. Ça n'a rien de fantastique. Donc, c'est possible. Alors, le problème dans la fonction publique, c'est que pour arriver à ça, et parce que les besoins changent, il faudrait pouvoir supprimer des postes là où on n'en a pas besoin, mais continuer à recruter effectivement là où on en a besoin. Parce que les besoins changent, la géographie de la population change, et le problème, c'est que la mobilité des fonctionnaires est relativement faible. Vous pouvez assez difficilement dire à des fonctionnaires que, bon, on n'a peut-être plus besoin besoin de lui à tel endroit, mais il faudrait qu'il aille ailleurs ou dans tel autre ministère, etc. Il y a des tas d'obstacles, des tas de natures très variées qui font que cette mobilité est faible. Et donc, en fait, un moyen de contourner cette mobilité qu'on voit dans ce projet insuffisante, c'est d'une part d'inciter les fonctionnaires à certains endroits à partir, avec des incitations financières qui ne sont pas nouvelles, hein, elles sont seulement un peu plus importantes qu'elles n'étaient jusqu'à présent, d'une part, et d'autre part, faciliter le recrutement de contractuels sur des contrats à durée déterminée à des endroits où on sait qu'on a des besoins pendant un certain temps, mais peut-être pas pour 10 ans, 20 ans ou 40 ans, la durée de vie normale d'un fonctionnaire.
Il y a notamment l'idée de contrat de projet, 6 ans maximum. L'employé, désormais attaché à une mission spécifique, quand la mission s'arrête, le contrat prend fin. Cette flexibilité, hein, pour reprendre un mot qui est beaucoup utilisé sur les questions d'emploi, elle n'est pas souhaitable, Baptiste Talbot. Je me dis qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnaires, et on avait déjà eu le débat, qui peuvent souhaiter une reconversion, qui vont avoir des facilités financières à quitter un poste, un statut.
Alors d'abord, le contrat de projet, moi en tant qu'agent territorial, et c'est le cas de beaucoup de mes collègues, ça nous fait penser à une première chose, 6 ans c'est la durée d'un mandat municipal. Voilà, donc ça forcément ça nous inquiète, parce qu'encore une fois ça participe de l'idée qu'on va on risque de plus en plus, avec cette flexibilisation accrue du recrutement et de la gestion des agents publics, il y a un risque de plus en plus accru de politisation et que la gestion des personnels se trouve calquée sur les options politiques, en particulier dans le monde des collectivités territoriales. Mais on peut aussi évidemment avoir des inquiétudes sur les autres secteurs.
Allez, si c'était 7 ans
là, c'est pas le cas. Donc c'est 6 ans maximum, c'est entre 1 et 6, avec l'idée que ça peut s'arrêter n'importe quand, ce qui, encore une fois, renforce nos inquiétudes. Par ailleurs, moi je veux souligner combien les règles de gestion, les règles statutaires, les lois, les décrets ont évolué tout au long de l'histoire de la fonction publique. Donc les modalités d'évolution de la fonction publique en fonction de l'évolution des besoins, elles ont été trouvées. Et que quand même, dans tout le débat qui accourt aujourd'hui sur les 120 000 postes, il y a au moins deux questions qui se posent de manière forte. La première, c'est pourquoi 120 000 ? Ça, on ne sait toujours pas pourquoi 50 000 à l'État, 70 000 dans les collectivités territoriales. Ce sont des chiffres qui jamais n'ont été explicités par ce gouvernement. Donc ça nous renforce dans l'idée qu'on est bien sur une logique comptable. Et l'autre aspect, c'est qui va rendre les missions qui vont être supprimées dans la lettre de mission qui a... Lancer le processus Action publique 2022, donc le courrier d'Edouard Philippe il y a quelques mois maintenant, j'ai juste un doute sur l'année, je crois que c'est septembre 2018.
C'était à la rentrée.
Il est dit explicitement qu'un certain nombre de missions ont vocation à être privatisées, voire abandonnées. On ne sait toujours pas aujourd'hui. On a le projet de loi, on a cette publicité des 120 000, on ne sait toujours pas aujourd'hui quelles sont les missions que le gouvernement compte supprimer ou privatiser. Je reviendrai éventuellement dans le débat sur quelles peuvent être les conséquences de ces privatisations.
Précisément, d'ailleurs c'est important ce que dit Baptiste Talbot, la logique comptable, c'est une logique comptable, la suppression de 120 000 fonctionnaires par an. Enfin, est-ce qu'on peut tous être d'accord là-dessus ou pas ? Il s'agit de faire des économies dans la dépense publique.
Ce que vous dénoncez. 120 000 ou 100 000 ou ça, effectivement.
Ça nous ramène à la campagne électorale, parce que certains disent 200 000, d'autres disent 80.
Dans un contexte où la population continue d'augmenter, donc en face il y a bien des besoins sociaux.
Christian Saint-Étienne.
Alors d'abord, le... pas sous le contrôle de mes camarades, mais la fonction publique, ça n'existe pas. Enfin, c'est une complexité inouïe et des corps très différents. Donc, il y a 5 200 000 employés publics, plus 200 000 en contrat associé. On doit être autour de 5,4, 5,5. Sur les 5,2 d'employés publics, il doit y avoir 1 million de contractuels et 4 millions de fonctionnaires. Donc déjà, les fonctionnaires, ce n'est que 80% de la fonction publique. Donc ça, c'est le premier point à avoir à l'esprit. Ensuite, vous avez trois grandes fonctions publiques. Vous avez l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Le secteur hospitalier. Le secteur hospitalier avec la sécurité. Donc
cette nuance en dit long.
Oui, donc sur ces trois secteurs, le secteur, alors c'est pas du tout méchant à côté vis-à-vis de mon camarade de gauche, c'est
qui est assis à sa gauche.
Qui est assis à ma gauche.
Peut-être est-il plus à gauche par ailleurs.
mais sur les là où la fonction publique a explosé sur les 25 dernières années, c'est dans les collectivités locales. On a eu une augmentation de l'emploi des collectivités locales de 700 000 à 800 000 personnes sur 25 ans. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il y a eu une augmentation donc à partir d'un point de départ qui était peut-être de 1,2 million, on est passé à 2 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est très très significatif. Une des raisons clés, c'est l'empilement des structures. C'est-à-dire qu'on a créé au cours de ces 25 années-là des intercommunalités, on a créé de l'ordre d'un 500 000 de postes au niveau des intercos sans en supprimer au niveau des communes elles-mêmes. Donc, par rapport à la question que vous posez d'objectifs comptables, les objectifs comptables, même dans le secteur privé, c'est stupide. La réflexion doit se faire par mission et dans le cadre de restructuration. Donc si au niveau des collectivités locales, on considère qu'il y a eu trop de création d'emplois et que surtout l'action des collectivités locales n'est pas efficace, à ce moment-là, il faut envisager une restructuration du type, et je termine par là, le fait de passer l'élection au niveau des intercos plutôt que des communes, de telle sorte qu'il y ait une seule autorité organisatrice de l'action au niveau des intercommunalités, de telle sorte qu'on puisse faire des restructurations intelligentes en lien avec les personnels qui puissent permettre de réduire le nombre d'employés tout en maintenant les missions.
19h47. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Notre question, je la rappelle, peut-on organiser le travail des fonctionnaires comme celui des salariés du privé? On revient dans quelques secondes pour un dernier tour de table sur Europe 1.
50 sur Europe 1, Mathieu Béliard et vos invités, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics, François Eckel, fondateur de Fipeco, site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes, et Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, conservatoire national des arts et métiers.
L'idée, c'est que vous sortiez de ce studio dans 5 minutes en étant tous d'accord. Est-ce qu'on peut...
Oula. dur.
J'ai le droit de rêver. Est-ce qu'on peut dire autour de la table, déjà, que quand on parle de réforme de la fonction publique, il faut se poser la question de ce qu'on attend des services publics, ce qu'on attend de l'État. Et c'est ce que vous disiez déjà sur la fonction publique territoriale il y a quelques instants. Et à partir de là, on a un grand débat national en ce moment. On a posé beaucoup de questions aux Français sur ce qu'ils attendent de l'État, sur... ce qu'ils attendent au niveau de la fiscalité, sur ce qu'ils espèrent au niveau de la dépense publique. Est-ce que ça avait du sens de lancer cette réforme de la fonction publique avant la fin du grand débat? Christian Saint-Etienne.
Oui, je pense que la réponse du gouvernement sur ce point, c'est que la loi apporte un certain nombre d'outils à l'action publique et que donc c'est pas forcément un mauvais moment pour... élargir la palette d'action du gouvernement, sachant que, en fonction du résultat du grand débat, on pourra utiliser ou non ces outils pour arriver au bout et répondre à ce qui est demandé par les Français. Ceci étant, quelque chose qui me semble très important de dire, c'est que l'État, c'est des services publics. Mais l'État, c'est, dans la vision française très particulière issue de la Révolution, c'est une vision du long terme et une stratégie d'action publique sur le long terme. Donc, quand on parle de service, on peut occulter cette fonction de stratège. Et d'ailleurs, on peut considérer que cette fonction de stratège est très très mal remplie depuis 30 ans. Et que ça crée une insatisfaction dans la population, mais les gens n'ont pas forcément la maturation pour expliciter cette insatisfaction, donc on se rabat et critique les services qu'on connaît plutôt que de formaliser cette critique. Et cette critique, d'ailleurs, sur les grands objectifs à long terme de la France, c'est que l'absence de stratégie qui nous frappe ça fait 4-5 quinquennats de suite, ou septennats, qu'il y a une action publique qui patine, ça se traduit par une croissance faible, ça se traduit par un taux de chômage très élevé, et donc l'insatisfaction sur l'action de l'État à tous les niveaux, elle est aussi liée à un contexte qui est, par exemple, le niveau de chômage très élevé. Voilà, donc on ne peut pas analyser les services publics sans prendre en compte cette dimension du rôle de l'État sur le long terme.
Mais François Eckel, c'est parce qu'on a oublié de se poser la question de quel était le rôle de ces fonctionnaires, en l'occurrence, de ces services publics.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire que ce projet de loi, c'est une boîte à outils. Mais avec cette boîte à outils, qui a pour objectif de rendre la fonction publique plus flexible, avec cette boîte à outils, vous pouvez aussi bien augmenter les services publics partout que les réduire, parce que de toute façon, que vous les augmentiez ou que vous les réduisiez, vous allez avoir besoin de redéployer des agents. Aujourd'hui, il y a des endroits où on considère, à tort Roux a raison, qu'il n'y a pas assez de services publics dans des zones rurales, mais aussi d'ailleurs dans des zones urbaines, hein, alors qu'ailleurs, bon, il y en a probablement peut-être un peu trop par rapport aux besoins. Donc de toute façon, ce redéploiement, il est nécessaire. Donc c'est une boîte à outils. Après, en effet, il y a autre chose, un autre exercice qui est de la revue des missions et la vision à long terme qu'appelait Christian Saint-Étienne.
Baptiste Talbot, on a réfléchi de manière trop administrative en oubliant de ce qu'était la mission du service public.
Alors d'abord, je rejoins mon voisin de droite au plan topographique.
Sur
la question de l'état stratège, effectivement, on peut avoir les pires inquiétudes. Et d'ailleurs, il me semble qu'on peut peut-être se dire aussi qu'il y a une similitude entre cette forme d'effacement de l'état stratège depuis déjà plusieurs décennies et l'idée portée par un certain discours dominant que le libéralisme serait un espèce d'horizon absolument indépassable. Et en tout cas, il est clair que le projet de loi continue de creuser ce sillon-là. Nous, le fait que le gouvernement s'échine à porter son projet sans écouter les organisations syndicales et en tenant le calendrier qu'il avait prévu de tenir, nous a conduit à penser que peut-être l'exercice du grand débat gouvernemental était un exercice insincère. Puisqu'on observe qu'effectivement le gouvernement a souhaité vraiment continuer sur sa lancée sur ce projet, alors même que le grand débat n'était pas terminé. Les conclusions du grand débat ne sont pas rendues, mais en tout cas sur la fonction publique, les conclusions du gouvernement sont déjà rendues. Donc voilà, tout ça nous incline à penser quand même qu'on a affaire à un exercice qui n'était pas sincère et qui, de notre point de vue, ne va vraiment pas dans le bon sens.
Merci à vous trois. Laissez-moi croire que je vous ai mis d'accord sur quelques points. Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics. François Hical, fondateur de Fipeco, un site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes. Et Christian Saint-Étienne, économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Nous aurons l'occasion évidemment de reparler de ce projet de loi de réforme de la fonction publique. Merci à tous les trois, en tout cas. Émilie Mazoyer, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va, Émilie?
Ça va bien. Je vous ai en face de moi. C'est la première fois que je vous vois en train de me parler. Ils m'ont
Ah oui, ça y est, je vous vois aussi.
Dans le studio. Vous êtes pas mal, hein?
Merci.
Prenez bien la lumière.
Merci. Écoutez, je vais rester sur cette considération.
C'est joli ce petit pull.
Merci, Émilie. Ah oui, non, elle découvre la télé, Émilie.
Oui, c'est ça. À la radio, on n'a pas
toujours sur l'image. Sur europe1.fr.
Regardez Mathieu Béliard tous les soirs, 17h-20h, et une collection de pulls incroyable.
Si j'en crois votre chemise, on écoute de la country ce soir.
Eh, pas loin, Louis Aguilar de la country du nord de la France.
Oh, boy, did I cry when you left me.
C'est tout faire, hein, Louis Aguilar, des reprises de Bob Dylan, des solos de Farfisa. Il est formidable et il sort un album qui s'appelle Oh Boy, il viendra nous en parler tout à l'heure.
Eh bien écoutez, je vais vous écouter jusqu'à 22h, puisque merci. Je prends la route pour Le Mans, où se tiennent demain les premières assises de l'automobile avec Europe 1, Ouest-France et l'Automobile Club de l'Ouest. Quelle est la place de la voiture dans notre société? Émission spéciale entre 17h et 19h. Belle soirée en musique, nous serons ensemble à l'écoute d'Émilie Mazoyer ce soir. À demain, Obline.
Oui, à demain, Mathieu Béliard. Donc 17h pour votre grand journal du soir, et à tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.